Bonsoir à tous, vous écoutez De Tout et De Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Aujourd'hui, on est le 23-11-2020, c'est toujours le confinement, mais c'est pas grave parce qu'on peut le passer avec des gens formidables, comme par exemple un très très vieil ami que vous n'avez pas vu dans l'émission depuis le final. Et qui aime souvent vous parler de musique. Je veux bien évidemment parler de Alexandre. Comment vas-tu aujourd'hui, Alexandre?
Mais ça va très bien, je te remercie. Et toi donc?
Mais je t'en prie. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. Avec Alexandre, on a également les deux nouvelles têtes de ce début de saison, à savoir Elia et Manon. Comment est-ce que vous allez toutes les deux?
Très bien.
Très bien, super.
Très bien aussi.
Très bien aussi, fantastique. Du coup, Elia, t'es encore ici en auditrice libre avant de participer probablement pour le prochain épisode.
Exactement.
Et Manon, par contre, chose promise, chose due, tu nous as prévu une petite chronique. On va pas gâcher la surprise, on en parlera plutôt à la fin. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est que... Eh ben, on parle musique avec Alex.
Ben oui.
Eh oui.
Eh oui. Alors, moi, j'avais eu envie aujourd'hui de vous parler du premier morceau de métal de l'histoire. Alors, c'est une petite idée de quel est ce morceau ou au moins de qui a pu faire ce fameux premier morceau de métal de l'histoire.
Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que c'est genre bien avant l'invention du rock en lui-même?
Ouais, je pense qu'il doit y avoir un piège.
Il y a un
quand même.
Tout petit piège, mais.
Ouais.
Là, comme ça, j'aurais envie de dire, je sais pas, c'est les Beatles.
Non, j'aurais pas dit les Beatles.
Oh là là, aucune idée.
T'aurais dit qui, toi, Manon, du coup, est-ce que t'es pas des Beatles?
Je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries et de ruiner ma réputation de métalleuse. Du coup, je ne me prononce pas.
Alors, eh bien, ce morceau, c'est simple, hein, c'est pas compliqué, c'est ce morceau-là. Alors, faut savoir que les Beatles, justement.
Oh!
De quoi?
Les Beatles, justement.
C'était oui. Bien les Beatles?
Ah, oui, yeah. C'est la période, la période vénère des Beatles. Ouais,
le titre. C'est qui le métallo ici, hein?
J'exagère un petit peu en disant c'est le premier morceau de métal. Alors, en fait, je vous expliquais un petit peu, mais c'était souvent qualifié de premier morceau de métal. Alors, le titre, c'est Helter Skelter.
Ouais.
Titre composé par McCartney, Paul McCartney, en 68. Il est paru sur l'album, le très célèbre album The Beatles, le fameux White Album, hein, comme on l'appelle aussi. Alors, son inspiration, elle vient en fait tout bonnement à McCartney d'une déclaration lors d'une interview de Pete Townshend, le guitariste de The Who, à propos de leur dernier single de cette époque-là, le titre I Can See For Miles, que je vous passe tout de suite. Alors, ce titre a été qualifié par donc Pete Townshend, justement, comme ayant un son lourd et brutal, et comme étant le morceau le plus dur que les Who n'aient jamais enregistré. Alors, à mon goût, on reste assez classique. C'est du Who, quoi, ça n'a rien de si extraordinaire que ça en soi. Bon, et c'est un peu la pensée qu'a eu McCartney aussi à ce moment-là.
D'accord.
J'ai trouvé ça assez classique, assez conventionnel. Et du coup, en réaction de ce titre, lui va composer un morceau plus agressif, encore plus agressif que tout ce qu'a jamais composé les Beatles. Ça nous donne ce fameux titre, Helter Skelter. Et c'est donc le fameux morceau qu'il aurait en fait aimé entendre en rapport à cette description, d'après ses dires en tout cas.
D'accord.
Alors, Helter Skelter, en français, on peut pas spécialement le traduire, ça veut rien dire. C'est intraduisible, c'est des mots qui n'existent pas, qui n'ont pas de traduction. En fait, Helter Skelter, c'est un toboggan en hélice, en fait, qui va tourner autour d'une tour. C'est une attraction, souvent, qu'on trouve dans les fêtes foraines, en Grande-Bretagne, en tout cas. Une tour, souvent en pierre ou en bois, ou en je ne sais quelle matière, dans laquelle on grimpe. Puis on arrive au sommet, il y a un toboggan qui fait le tour de la fameuse tour, en fait. Voilà. Donc c'est ça, Helter Skelter. Bon. C'est un morceau qui sort un peu de nulle part. Entre deux titres beaucoup plus calmes, qui va demander quand même au moins une vingtaine de prises. D'ailleurs, à la toute fin du morceau, on entend Ringo Starr, le batteur, qui s'exclame d'avoir des ampoules aux doigts. En fait, effectivement, au bout d'une quinzaine, vingtaine de prises, il en pouvait plus, il a balancé ses baguettes à l'autre bout du studio, s'il est beaucoup trop mal. Et du coup, ils ont trouvé ça fun de garder ça sur la piste, quoi.
Pas mal.
C'est un morceau qui est pas mal reçu par la critique. qui va avoir du mal à le classer un petit peu, à ranger le morceau dans les cases, parce que ça ressemble à rien, je vous le disais, de ce que faisaient les Beatles à ce moment-là. Personne n'a jamais fait ça encore à l'époque. On a quand même un journaliste du New York Times, qui va inventer un néologisme pour qualifier ce titre, il va le qualifier de hard rock.
Ah, d'accord.
Voilà les petites origines de tout ça. Alors, justement, 68, on se situe en pleine période d'émergence du heavy metal. On a Black Sabbath, qui est considéré comme le premier groupe du genre, qui se forme la même année, en 68 donc. Donc forcément, McCartney va donc avoir été pas mal influencé par ce qui se faisait à l'époque, d'où cette volonté d'aller plus loin, de sortir cette étiquette dans laquelle on le rangeait régulièrement, cette étiquette du gentil Beatle. C'est comme ça qu'il était souvent qualifié. Donc à vouloir faire des choses un peu plus lourdes pour se rapprocher notamment de ce que faisaient les Lennon et puis de ce que faisaient les pionniers du métal à l'époque. De même, les Beatles vont aussi forcément beaucoup influencer ces fameux groupes puisque donc ils se séparent 2 ans plus tard, en 70, et la relève va être assurée par des groupes comme donc justement Black Sabbath, je vous le disais, mais aussi Led Zeppelin, Deep Purple par exemple. Donc des groupes qui s'inspirent tout doucement, qui piochent leurs inspirations dans les Beatles, mais qui cherchent à faire quelque chose d'un peu plus violent, qui va un peu plus loin. Et forcément, Helter Skelter, c'est un peu du pain béni pour eux. Alors par contre, ce titre a été longtemps mal aimé des fans. En 71, il était classé comme la 4e chanson des Beatles la moins aimée.
Ah oui, d'accord.
Alors, ce qui va certainement alimenter ce rejet... Alors, si vous avez peut-être entendu parler, c'est par rapport à Charles Manson. Puisque Helter Skelter, hein, en fait, lors du meurtre de Sharon Tate en 69, on a Helter avec un A au lieu de H-E-L-T-E-R au lieu de H-E-T-L-T-E-R qui était tracé, Helter Skelter tracé avec la faute, donc tracé avec le sang d'une des victimes lors du meurtre. Et c'était quelque chose qui a été retrouvé également lors des perquisitions, des fouilles qui ont été faites au niveau de là où se situait la Manson Family. C'était quelque chose qui revenait régulièrement.
Ok.
Lors de son procès, justement, Manson avait rejeté la faute sur les Beatles. Et c'est la faute des Beatles, parce qu'il voyait dans le titre, justement, dans Helter Skelter. Alors, personne ne sait où est allé chercher ça. Et il a vu dans le titre, dans les paroles, une forme de prédiction de guerre raciale. Comme quoi, ça voulait dire que les Noirs se soulèveraient contre les Blancs. Il voyait là aussi des allusions bibliques, un lien avec l'Apocalypse, et il plaçait les Beatles comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il est allé super loin.
Moi, j'adore le Charles Manson, il est complètement fou, hein, clairement.
C'est absolument génial.
Je pense que c'est le mec, il est en mode « Ok, ben, je suis en prison, j'ai que ça à foutre de casser les couilles aux Beatles et je vais leur foutre une répute de merde.
» Non, mais c'est ça. Après, effectivement, il était quand même beaucoup, beaucoup influencé parce que il y a plein de trucs, il y avait plein de déclarations par rapport à l'album. Donc le Helter Skelter qui était retrouvé déjà, je vous le dis, donc, sur les sites des meurtres et puis également là où se situe la secte. Il y a un des morceaux qui s'appelle sur le même album qui s'appelle Sexy Sadie et l'une des femmes qui ont commis le meurtre de Sharon Tate était surnommée justement par Manson Sexy Sadie en rapport à ça. Il était cherché super loin des allusions dans cet album, donc vraiment c'était un peu c'était complètement fou. Et ce qui a aussi peut-être du coup contribué encore une fois à cette mauvaise image du titre, c'est le fait que le titre du livre qui était sorti là-dessus, sur les meurtres et le procès, le livre écrit par Vincent Bugliosi et Kurt Gentry, le titre s'appelle tout simplement Helter Skelter, là encore. Donc ça contribue à cette mauvaise réputation du titre. Alors, dans l'histoire du rock, ça reste quand même un morceau qui... est extrêmement marquant forcément parce que c'est beaucoup plus violent que ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça sort de nulle part, c'est un peu un ovni en fait, hein, complètement. Et donc c'est un morceau qui a été pas mal adopté par le milieu punk pendant un temps parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est identifié comme un symbole de révolte juvénile par exemple, donc qui colle pas mal au punk. Alors au fil des ans, au fil des différentes années, on va avoir plein de reprises. C'est un des morceaux les plus repris de toute l'histoire de la musique. Des artistes comme Aerosmith, comme Motley Crue, ou U2 encore par exemple lors d'un live en 88. Souvent, ces reprises vont avoir pour but d'ailleurs d'exorciser un petit peu Manson. Bono, quand il reprend ce titre avec U2, déclare, juste avant de lancer le morceau, « C'est une chanson que Charles Manson a volée aux Beatles. On la lui reprend. » Donc il y a vraiment cette volonté de sortir de là. Alors cette volonté, bon, elle est pas là pour tout le monde. On prend Rob Zombie, par exemple. Rob Zombie, donc chanteur du groupe White Zombie, qui lui avait une sorte de fascination pour Manson, déjà. Et il voit dans ce titre un élément de plus qui permet d'alimenter le mythe. Hein. C'est toujours pareil, c'est partie du folklore, etc. C'est un peu fun de jouer les satanistes, etc. Et donc, il va le reprendre avec son groupe au début des années 90. Je peux pas évidemment parler de Charles Manson sans parler de Marilyn Manson, ouais. Forcément, qui lui aussi l'a repris en 95 d'ailleurs. Sans doute pour les mêmes raisons que Rob Zombie, hein, pour le, en l'occurrence.
Oui, et puis ils sont copains un petit peu.
Oui, c'est un petit peu, voilà, voilà. Ils avaient quelques affinités.
Mm-mm.
Alors, je vous le disais, c'était repris par plein d'artistes, tous voyant une signification différente du morceau. Mais beaucoup vont chercher par contre à se détacher des propos de Bono, qui voulait lui chercher une interprétation rassurante de ce morceau. On a Rob Zombie, du coup, pardon, qui voulait accentuer le côté un peu lugubre. Mais on a d'autres artistes qui veulent exploiter le côté ovni, je vous le disais, qu'on ressentait en 68. Ça va permettre d'expérimenter et de remodeler le morceau en suivant d'autres styles. On a des reprises rock, des reprises jazz, des reprises swing, du punk, du funk. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas un genre qui n'a pas essayé de s'atteler à reprendre Helter Skelter, je pense. Voilà un petit peu l'histoire de ce morceau, rapidement. Et puis, bah, pour clôturer, je peux vous passer un peu ma reprise préférée de ce morceau. Cette fois-ci, donc, c'est une reprise par Rob Zombie et Marilyn Manson, donc paru en 2018, pour le coup. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce morceau, donc sur sa petite histoire et tout ce qui tourne un petit peu tout autour.
Classe, bah merci Alex. Beaucoup Alexandre, c'était chouette.
Très cool.
Avec plaisir.
Quand j'ai dit les Beatles tout à l'heure, j'ai dit un peu au pif et en même temps pas trop parce que je me suis dit, dans ma tête, les Beatles c'était un peu des précurseurs de tout et voilà quoi. Donc,
Tu cherches les origines, tu prends dans les Beatles.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais,
c'est exactement ça.
Mais tu vois, moi j'ai un peu de mal avec les Beatles et tu m'as donné envie d'en savoir plus.
Eh ben, super. J'avoue que je suis pas le plus grand fan non plus des Beatles, mais il y a quelques morceaux quand même qui passent, et celui-ci, c'est vrai que
oui.
Il est quand même pas mal, et c'est vrai que ce côté un peu qui sort de nulle part, personne s'y attendait, personne n'a compris ce qui se passait.
Ouais.
Je trouve ça assez rigolo quoi.
Ouais, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce qui vous plaît pas dans les Beatles, en fait, tous les deux, du coup ?
Bah, vas-y, Manon, peut-être, je sais pas.
Moi, c'est purement débile. Hein. C'est juste que tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit que c'est merveilleux, et tout le monde dit qu'ils sont précurseurs de tout, et ça m'énerve.
C'est vraiment juste ça. D'accord.
Ça m'énerve profondément. Et c'est vrai que les chansons... Enfin, moi, je dis que j'aime pas les Beatles depuis genre le collège. Mais c'est surtout parce que, oui, au collège, on nous faisait chanter des chansons, mais des chansons de merde. Les Beatles, au final, celles qu'on connaît, c'est les chansons de merde.
Oui,
tu vois, genre Let It Be. Bon, merci, bonsoir, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu cette image des Beatles vraiment niant. Et que j'ai jamais trop accepté
la violence.
Je sens un passé de rage.
Ouais, c'est clair.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, et du coup, là, maintenant, c'est bon, je suis une adulte, j'arrive à faire mon deuil. Et à passer
c'est bon.
Mais c'est vrai que du coup, je m'étais jamais repenchée dessus et jamais repris le temps de me dire bon, arrête d'être con et écoute vraiment les Beatles parce que, en vrai, les chansons que t'aimes, il y a des chansons que t'aimes bien, arrête d'être de mauvaise foi.
Non, mais ça, sorti des gros classiques, il y a des trucs qui sont quand même sympas. Après, c'est pas moi ce que j'apprécie personnellement, c'est pas
ouais.
Mon style de musique perso, mais il faut reconnaître qu'il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants, quoi.
D'accord, ok. J'avais une question, parce que j'ai préparé quelque chose, hein, comme d'habitude. j'ai préparé ça un peu à l'arrache, parce que je pensais qu'on allait être 5, mais en fait, au final, non. Donc, c'est vraiment une question qui est toute bête. C'est une question qui est en rapport avec le milieu artistique, que ce soit musical... littéraire ou tout ce que vous voulez, bref, n'importe quel milieu, c'est quelle est la nuance ou la limite qui peut exister entre un hommage, une inspiration ou un plagiat ? À partir de quel moment on qualifie une telle œuvre de telle chose, en fait ? C'est quelque chose qui me questionne depuis qu'on l'a évoqué pendant 5 secondes pendant le final de DTDR au cours d'une vanne où je reprenais le concept d'un blind test que j'avais entendu dans un autre podcast où j'avais dit que c'était un plagiat en déconnant, mais en même temps, ça l'était un petit peu aussi, mais c'était aussi une volonté de faire un hommage. Donc du coup, quelle est la limite entre tout ça ? Parce que du coup, je me suis questionné depuis, je me suis dit, bah oui, ça peut potentiellement être du plagiat. Est-ce que les personnes qui vont écouter ça vont considérer ça comme tel, ou comme un hommage, ou comme une inspiration, ou s'en battre les couilles? Et du coup, j'aurais voulu votre point de vue là-dessus. Voilà.
Alors moi, je vais te répondre d'un point de vue purement scientifique. Ouais. Quand tu écris un mémoire ou une thèse ou quoi que ce soit, c'est pas du plagiat à partir du moment où tu cites ta source.
Ah, pas mal.
Tu peux citer, tu peux faire une citation, la mettre entre guillemets, et en note de bas de page, tu mets ta source, et à partir de là, c'est pas du plagiat. Par contre, si tu reprends les propos de quelqu'un, même si tu changes tous les mots et que tu fais une autre phrase et que c'est ces propos-là, c'est du plagiat.
D'accord.
Parce que tu n'as pas cité la personne. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où tu cites la personne et où tu renvoies vers l'œuvre originale, c'est un hommage et c'est pas du plagiat. Par exemple... Je considérerais plus comme du plagiat, même s'il est apparemment pas intentionnel. Je pense à ça parce que je sais que Alex est un grand fan des Pink Floyd. et que moi, je suis une grande fan de la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra.
Ouais. D'accord, j'aime
bien le dire. Le thème principal du Fantôme de l'Opéra, en gros, c'est plus ou moins un plagiat de Echoes des Pink Floyd.
D'accord.
Et donc Andrew Lloyd Webber qui a composé cette comédie musicale a eu beaucoup de problèmes avec les Pink Floyd, du coup, parce que je pense pas qu'il ait fait exprès, mais clairement... Quand on écoute les deux, on se dit oui, enfin bon, te fous pas de notre gueule non plus, hein, vous êtes tous les deux
c'est
anglais,
assez flagrant, ouais.
vous savez ce que vous faites. Hein. Voilà. Donc là, c'est, ouais, plutôt plagiat.
D'accord.
D'accord, et du coup, on peut pas qualifier ça d'une inspiration. Alors pour le coup, j'ai ni la musique du Fantôme de l'Opéra, ni celle qui l'a piqué dessus,
ouais, pareil.
En tête, mais ouais, du coup, ça pose la question de l'inspiration. T'as une réponse pour ça?
Non, mais je pense que ça pourrait être vraiment de l'inspiration si c'était des petits bouts, des petits trucs, vraiment des trucs subtils. Quand tu vois genre le tin 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 tin, et t'as le même dans Echoes, mais vraiment c'est genre
ultra flagrant.
Ouais. Ouais, c'est vraiment très 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 flagrant. Alors après, ça peut être complètement pas intentionnel. Je veux dire, enfin, moi il y a plein de fois où j'entends des potes composer des trucs et je leur dis ah ben en fait ça c'est exactement le riff de ça. Mais ils connaissent pas du tout la chanson. Et c'est juste que bon voilà, ça va très vite en fait. Mais
ouais,
je sais pas. En
vrai,
c'est très subjectif, hein. Parce que t'es là, ouais, bah ça se ressemble trop, c'est du plagiat. Mais en fait, ouais, c'est très subjectif, c'est selon le ressenti de chacun. J'ai pas.
Il m'est arrivé un truc d'ailleurs rigolo vis-à-vis de ça, pas plus tard que hier soir, où du coup j'étais avec Raphaël, que toi et Manon, que Alex et Manon connaissent bien, et qui fredonnait un air. Et en fait, il fredonnait l'air de Shining. La musique de Shining. Et je lui dis, tiens, tu chantes Shining. Et il dit, non, j'ai jamais vu Shining, je peux pas chanter Shining. Ce que je chante là, c'est le thème de Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Et je lui dis, mais non, tu chantes Shining, là, très très clairement, tu chantes Shining. Et du coup, il me disait, non, c'est Gollum. Et en fait, du coup, on allait checker, bien évidemment. Le fait est que, il chantait effectivement à la fois Shining et à la fois une partie du thème de Gollum. Parce qu'en fait, bah, les deux se ressemblaient énormément. Mais je suis pas sûr que Watcher ait spécialement voulu pomper le thème principal de Shining pour faire celui de Gollum. C'est
oui,
vraiment
ça,
plus
c'est...
de... Parfois, je pense qu'il y a aussi une part de hasard qui fait que bah, y a pas 36 milliards de mélodies qui existent non plus sur Terre et qui fait que du coup, bah, tu reprends quelque chose sans même t'en rendre compte. À l'inverse, j'ai un contre-exemple. Je dois aussi parler de ça pour ça parce que cet été, il y a une chanson qui est passée beaucoup à la radio. Bon, apparemment, c'est voulu et la personne a les droits, c'est Some Say, la chanson Some Say d'une artiste qui s'appelle Néa. Et en fait, le refrain fait ta 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 ta. Et ça, c'est I'm Blue. Et en fait, la première fois que je l'ai écouté, j'étais à me dire, mais c'est I'm Blue. Et du coup, comme n'importe quel rageux de la Terre, je suis allé sur Internet et j'ai tapé I'm Blue plagiat. Je suis tombé sur des centaines de gens qui déversaient leur haine. Et en fait, apparemment, elle avait les droits de le faire, donc tant mieux. Mais du coup, sur le moment, ça m'a fait un choc et je me suis dit, bah, plagiat. Et voilà quoi. Mais bref, voilà, c'était les deux petites anecdotes.
Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est subjectif aussi. C'est parce qu'à partir du moment où ça te met hors de toi, que tu dis que c'est du plagiat, ben ouais, mais en fait, effectivement, la meuf, elle peut tout à fait avoir les droits
exactement.
Et avoir fait un hommage. Mais donc au final, ouais, c'est assez subjectif. Et puis au final, je pense qu'on se fait aussi beaucoup rattraper par nos influences dans la vie. Que tu vois, typiquement pour la musique de Shining, du Seigneur des Anneaux, ben, le mec, peut-être que c'est un gros fan et qu'il a été inconsciemment, il a tellement absorbé la musique de Shining que ça ressort malgré lui, tu vois. Enfin.
C'est ça, on l'avait évoqué avec Alex une fois qu'en fait, bah, tu crées de la musique, mais tu t'inspires toujours de quelque chose, et au bout d'un moment, bah, des fois, tu fais même plus forcément gaffe, en fait.
Comme dirait le scientifique Lavoisier, puisqu'on l'a appris par cœur en quatrième et qu'à chaque cours, on le répétait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Classe.
Non, mais effectivement, dans l'histoire de la musique, ça en a plein de procès pour plagiat, etc. Et du coup, je pense en fait, c'est, comme tu dis, Manon, c'est ultra subjectif, en fait, et que c'est des... Du coup, bah, y a qu'un moyen de le trancher, malheureusement, c'est soit à l'amiable en disant, bah oui, effectivement, je reconnais, j'ai pompé ça direct, soit après, du coup, bah, c'est dans les tribunaux, et du coup, c'est la justice qui rend une décision qui dit plagiat ou non, et c'est souvent comme ça que c'est déterminé s'il y a plagiat ou pas, quoi. Mais l'histoire de la musique en est remplie. Ouais. Il y a même Springsteen qui a plagié un morceau de Kiss, quoi, et que justement Kiss n'a rien dit parce que c'est Springsteen, mais ils sont pas appréciés, quoi. Enfin, il y en a plein des histoires comme ça, et c'est comme, enfin, du coup, ouais, comme dit Manon, c'est ultra subjectif, en fait, pour moi.
Ouais.
En fait, surtout, ce qui est compliqué, c'est que déjà, la limite est très fine, je trouve, et si c'est pas un plagiat intentionnel, comme on reprend bah, l'histoire de la mélodie du Seigneur des Anneaux ou de Shining, en fait, c'est ce que vous disiez, genre. En fait, il y a des choses qu'on absorbe inconsciemment, et après, un artiste peut la refaire, la réarranger, comme par exemple la chanteuse qui a repris la chanson cet été. Alors, je sais pas si c'était conscient ou pas, mais dans le cadre où on le fait inconsciemment, en fait, je trouve que le problème va au-delà de... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu l'humanité, quoi. C'est des choses qu'on entend, on les recrée, on les rebouge, et c'est un peu le mouvement de chaque chose qui se répond, et malheureusement par moment ben la ressemblance est vraiment trop forte, quoi, et du coup c'est là que ça implique des problèmes de justice qui sont très compliqués à gérer, j'imagine, en fait.
Oui, et puis c'est ça, est-ce que du coup dans ce cas-là, vu que c'est pas intentionnel, est-ce que c'est vraiment du plagiat?
Bah, ouais.
C'est un peu la question philosophique du jour.
Mais de rien, c'était fait exprès. Hein, c'est...
Qu'est-ce que le plagiat ?
C'est le plagiat, inspiration, hommage. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois choses ?
Quand commence
entre
le
ces trois choses-là ? Il y a aussi un autre souci, c'est que ben, on peut parler un petit peu de cinéma. C'est que je trouve, après c'est mon point de vue, qu'en ce moment il y a énormément d'hommages qui est fait dans l'industrie du cinéma vis-à-vis des années 80-90. Et tu t'en sors justement avec des films comme, je sais pas si vous avez vu, je pense juste à l'instant, Ready Player One.
Non,
vous avez pas vu Ready Player One. Bah Ready Player One, c'est un film de Spielberg, et dedans t'as énormément de références à bah, la pop culture des années 80 et 90, à tel point en fait que, bah, à force d'avoir de l'hommage et de l'inspiration, c'est pas que ça en vient du plagiat, c'est que ça en devient trop, parce qu'en fait le film, oh le chat, n'est que ça, quoi, en fait. Il est d'accord avec moi. C'est la ligne qu'on entend, c'est ça ?
Ouais, c'est la ligne.
Ouais. Oui.
Donc ouais, c'est-à-dire que t'as, c'est une chose effectivement de plagier, c'est-à-dire que c'est pas bien, et encore si t'as l'autorisation de l'auteur, bah pourquoi pas. Mais après, quand tu fais, à force de faire trop d'hommages tout le temps, même si c'est des mini références par-ci par-là, bah ton œuvre elle finit par plus ressembler à grand-chose, quoi, en fait. C'est le seul reproche que j'aurais à faire là-dessus. C'est le seul film auquel je pense, c'est vraiment Ready Player One, qui a pas mal été encensé par tout le monde quand il est sorti. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais là à me dire, bon, bah, ok, bah, d'accord, il y a des références à tous les coins de rue, mais quel est le propos du film derrière tout ça? T'as même une séquence, on va en reparler, hein, mais entière, qui est reprise de Shining, dans lequel les personnages sont projetés dans le film Shining. Dedans.
Oui.
Donc, voilà. Au bout d'un moment, des fois, c'est trop, quoi, en fait.
Ouais, après ça pose la question de où est la création, où est l'originalité
c'est ça, ouais.
C'est ça.
De l'œuvre, en fait. Ouais.
Oui, c'est comme tous ces remakes qu'ils font en ce moment.
Ouais, c'est ça, c'est pareil.
Ouais, trop.
Il faut arrêter.
Oui, ouais. Non, clairement. Ouais. Oui, il faut arrêter. Moi, j'ai vu, il y a un film des années 90, parce que c'est la grande mode des années 90 en ce moment, hein, comme chacun sait. Et il y a un film que j'adore des années 90 qui s'appelle The Craft, qui est le film par excellence de sorcières, voilà, teen movie des années 90, un peu dark et tout. Et il est culte, ce film, il est vraiment hyper culte. Et là, ils vont faire un remake, et je trouve ça mais tellement nul. En vrai, tout le monde aime le premier. Pourquoi est-ce que vous insistez toujours pour faire des remakes? Ça. On s'en fout, tu vois, personne ne va l'aimer, personne. Laissez-nous tranquilles.
Ah oui, c'est ça, clairement. Il y a un manque d'originalité. C'est ça le problème qu'entraîne l'hommage ou l'inspiration ou le plagiat, c'est que ça entraîne surtout parfois un manque d'originalité flagrante, ou même une non-recherche d'originalité. Parce que après, tu peux t'inspirer légèrement et ensuite t'écarter complètement du chemin, et au final avoir un truc qui n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Alors je sais pas pourquoi c'est encore sur Shining que ça va tomber, parce que du coup j'en ai parlé au début, donc j'ai que ça qui me vient en tête comme exemple. Mais le film de Kubrick n'a rien à voir avec le bouquin de Stephen King, Donc, pour le coup, bah là, c'est une adaptation. Bon, on parle d'adaptation, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est une adaptation vraiment très très libre, à tel point que du coup, bah, c'est deux œuvres complètement séparées. Et si quelqu'un aujourd'hui voulait faire un remake de Shining, le film, bah, ce serait pas un remake. S'il adapte vraiment le livre, ça serait juste une adaptation beaucoup plus fidèle et donc radicalement différente. Ou alors, si quelqu'un décide de l'adapter d'une manière différente, bah, pour le coup, ça fera quelque chose d'encore plus original. Donc, il y a toujours moyen d'avoir un matériau de base, de le tordre et de faire quelque chose d'original sans forcément le repomper jusqu'à la moelle, en fait.
C'est le cas, justement, pour Shining. Tu parles de Shining, justement. Il y a le film de Kubrick et il y a un autre film, alors c'est un téléfilm pour le coup, qui est beaucoup moins connu.
C'est vrai.
Et qui, pour le coup, c'est King lui-même qui l'a fait, parce qu'il a trouvé que le film de Kubrick était vraiment de la merde par rapport à son bouquin.
Ouais, il l'a détesté.
Et du coup, il a refait lui-même un film. Moi, j'ai pas vu le téléfilm.
Bah, apparemment, il paraît que le téléfilm est vraiment merdique par rapport.
Il paraît que le téléfilm est vraiment nul d'un point de vue cinématique et cinématographique. Il est nul à chier. Et par contre, il colle beaucoup plus au bouquin. Ouais. Quoi. Donc, ça, c'est problématique.
Après, quand Stephen King se met à faire de la production, c'est jamais très très bien. Je sais pas si vous vous souvenez de la série Kingdom Hospital.
Pas vu.
Non.
Eh ben, voilà. vous avez tout compris. Bah, c'était King qui
produisait ça. Ouais, et c'était pas bon.
D'accord.
On comprenait rien. C'était complètement délirant. Enfin, moi, ça me faisait très peur. Ça passait après la trilogie du samedi.
Ah oui, d'accord. C'est
un peu
ça passait après la trilogie du samedi. Voilà. Okay.
Ouais, c'était un peu tard le soir. Moi, je regardais ça toute seule dans ma chambre. Moi, j'avais un peu une idée. C'est trop bizarre. Et voilà. Mais personne ne se souvient de ce truc parce que bah, c'est mieux.
Mais après, je trouve que c'est super intéressant le fait d'adapter quelque chose justement comme Shining. Alors, j'ai pas lu le livre, je peux pas savoir, mais je trouve intéressant quand justement un autre support, donc là le cinéma au lieu du livre, réadapte au sens propre du mot, c'est-à-dire que bah, il se permet de faire beaucoup de retouches, de changer. Éventuellement des parties de l'histoire ou des personnages ou des choses comme ça, mais tout en gardant l'âme de l'histoire. Et c'est là que je trouve qu'une adaptation, c'est intéressant, et que un remake pourrait être intéressant s'il se permettait de faire des changements, quelque chose qui éventuellement parlerait plus aux générations d'aujourd'hui, par exemple. Si on reprend l'exemple sur le film dont tu parlais tout à l'heure, des années 90, qui va être refait, là ça peut être intéressant et ça peut avoir, je trouve, une valeur, on va dire, au niveau artistique, au niveau même juste pour l'œuvre en elle-même, mais sans ça, en fait, ça allait pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment le problème du moment, c'est que on profite pas justement de cette possibilité de réadapter et donc de ramener à quelque chose de très créatif le principe de l'adaptation ou du remake, en fait. Et je trouve que justement les adaptations cinématographiques qui viennent d'un livre sont plus intéressantes quand elles vont plus loin que le livre, en fait, qu'elles se permettent justement des réajustements qui préservent le propos du livre et l'âme du livre, mais qui le réadaptent dans un autre format et qui parlent à un autre public, du coup, d'une manière différente. Et je trouve que c'est intéressant quand c'est dans ce sens-là, en fait. C'est comme les musiques, je sais pas si ça vous le fait, moi je suis assez fan des covers, mais j'aime surtout quand c'est des reprises qui sont très différentes du style de la musique originale, en fait. Je trouve que c'est là que c'est intéressant de reprendre les mêmes paroles pour les faire à une autre sauce, en fait.
Carrément. Et c'est vrai que souvent, ça énerve les gens, hein, notamment les adaptations en mode « Le livre a été mieux que le film !» Oui, mais en fait, c'est...
Bah oui, c'est ça, c'est
pas terrible. C'est pas qu'il était mieux, c'est que c'était autre chose.
Bah disons qu'il y a deux... Calme-toi. Il y a deux facettes à ça, c'est-à-dire que tu peux faire une adaptation... tu peux réarranger un script d'un livre pour en faire un film qui est différent ou... Mais il y a des gens qui le font bien, comme par exemple Kubrick ou à tout hasard un certain Peter Jackson. Et il y a des gens qui le font mal. Et après ça va être très très personnel, mais de mon point de vue, par exemple, ça va être tiré sur l'ambulance, hein, comme d'habitude. Mais par exemple, les 5 dernières saisons de Game of Thrones sont mauvaises adaptations par rapport aux premières qui étaient de meilleures adaptations.
Oui, mais c'est parce qu'il y a l'élément thune.
Ouais, mais du coup c'est ça qui est intéressant. Mais tu vois, après Jackson, il a eu énormément de pognon pour faire ces 3 films, et pourtant il arrive justement à faire une adaptation qui est mine de rien très différente du bouquin. Enfin, t'as tout plein de pans qui sont supprimés, tout le début là, avec les êtres de Galgal, etc. Enfin, de bordel incroyable. Et t'arrives à avoir un film, pour l'avoir revu récemment, toi aussi Alex, du coup tu l'as vu, qui est quand même vachement cohérent, qui respecte l'univers, mais qui est quand même différent dans son ensemble. Et ça, pour moi, je pense que Le Seigneur des Anneaux correspond vraiment, en tout cas les films de Jackson, à ce que, dans mon point de vue, et une bonne adaptation. Enfin, pour moi, c'est la meilleure adaptation qui soit, le meilleur modèle. C'est-à-dire, tu prends l'œuvre originale, tu la mets un peu à ta sauce, tu l'adaptes pour que ça passe mieux, que ce soit beaucoup plus digeste que l'œuvre principale, et t'en fais un chef-d'œuvre, quoi, en fait, tout simplement.
Je ne peux qu'être d'accord.
Ouais, je suis bien d'accord aussi.
Ouais, c'est beau.
Merci.
Marc, il a fait chialer tout le monde, ça y est.
Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou
Eh ben.
Pas spécialement. Et bah, du coup, on peut passer au dessert alors.
Eh bien, ça tombe bien que tu parles de dessert.
Ah, c'est vrai, j'ai touché juste ou pas?
Eh ben, je sais pas trop. Alors, vous allez, je vous ai préparé donc un petit article. Hein, vous allez bien sûr intervenir hein, également, parce que je pense que vous allez avoir des choses à dire. Donc, on parle toujours de choses très très intéressantes dans cette émission. Hein, bien sûr, tout le monde a des sujets très très différents, mais très intéressants. Merci Alex pour ce super sujet et tout ça.
Avec plaisir. Bah,
on a des bons débats. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de vous parler d'un truc vraiment de merde, dont tout le monde se fout, qui intéresse personne. Parce que j'en ai marre que vous soyez tous intéressants et que, voilà, comme ça dans le doute. Au moins, je sais que c'est de la merde. Je fais.
En fait, tu représentes le chaos, Manon, dans cette émission.
Oui. Je viens semer le chaos.
C'est une bonne
chaos.
Technique, ça, pour commencer sa chronique et tout. J'y penserai pour
Excellente
la prochaine
technique,
fois.
Excellente technique. Mais bien sûr. C'est comme la technique, tu sais, que quand on te prend en photo, si tu fais une gueule de merde, eh ben, tu sais pourquoi t'as une gueule de merde sur la photo, tu vois.
C'est, pas genre, pas mal.
C'est exactement le même principe.
Écoute, moi, je t'annonce tout de suite que je vais faire du plagiat sur ta technique.
Très bien.
C'est beau.
Tu as parfaitement l'autorisation. J'espère que tu arriveras à trouver un sujet encore plus nul que le mien, parce que franchement, je me suis donné du mal. Alors, on est tous français, enfin, je crois. Est-ce que tout le monde est natif de Francie?
Ouais.
Très bien. Et donc, bah, nous, en tant que Français, je pense qu'on est tous d'accord, on aime manger.
Oui, c'est vrai.
Tout le monde aime manger, et en fait, on aime tellement la bouffe, on aime tellement manger, déjà que je pense qu'on est le seul peuple qui arrive à parler de ce qu'ils vont manger le soir alors qu'ils sont en train de manger le midi.
Oui, ça c'est vrai, il paraît que c'est une spécialité de chez nous. Ouais.
Et que, en plus, eh ben, ça peut parfois créer des débats extrêmement violents. Tu vois, par exemple, notamment sur les appellations, alors on reparle plus hein, du débat chocolatine, pain au chocolat, voilà. Il y a également d'énormes débats sur les provenances de certaines spécialités. Par exemple, l'aligo. Moi, j'adore l'aligo. Et ben, l'aligo, bah, ça se tire la bourre entre, je crois que c'est l'Auvergne, la Lozère,
l'Aveyron.
Tout le monde veut la paternité de l'aligo. Et puis, surtout, je trouve que les pires batailles, les batailles les plus sanglantes, c'est vraiment sur « moi, j'aime tel aliment et toi, tu l'aimes pas ». Et c'est de la merde, du coup. Un aliment vraiment qui partage un petit peu les clans comme ça, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le raisin sec.
Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, j'étais pas... Pourquoi j'aurais dû m'y attendre?
Alors, donc je vais vous parler du raisin sec. J'ai fait quelques petites recherches parce que je n'y connaissais rien en raisin sec, bien sûr. Et donc, il existe 5 variétés de raisin sec et je vais vous les énumérer parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Alors, il existe donc le raisin de Corinthe, le raisin de Smyrne, le raisin de Malaga, la sultanine et le raisin blond ou doré. Mais bon, sachez que 95% du raisin que vous mangez, c'est du cépage blanc, la sultanine. Et pourquoi la sultanine, à votre avis?
C'est ça qui permet d'être sec, j'imagine?
Non.
J'en ai aucune idée.
Eh ben, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans vos raisins secs, il n'y a pas de pépins?
Ben, en fait, vu que j'aime pas trop les raisins secs, je regarde pas les raisins secs.
C'est normal, c'est de la merde. Mais voilà, il n'y a pas de pépins, en fait, dans le cépage sultanine. Et du coup, c'est pour ça que c'est celui-là qui est un peu le préféré. C'est parce qu'il n'a pas de pépins et du coup, c'est beaucoup moins chiant. Hein. Voilà.
D'accord.
Donc, il y a 3 méthodes pour sécher ce pauvre raisin. Alors, soit on le met au soleil direct et il sèche, soit on le met dans des hangars très aérés et avec le vent, ça sèche, soit on peut l'ébouillanter 15 à 20 secondes dans l'eau très très chaude et puis après, on les passe dans des tunnels de déshydratation. Moi, je trouve ça extrêmement barbare comme technique, personnellement. Et sachez que c'est au moment du séchage que le raisin s'oxyde et devient brun. Voilà, d'où la couleur de vos raisins.
On sent la rage un peu quand même, hein. C'est marrant.
Et sachez que niveau économie, parce que ça aussi, ça intéresse tout le monde, eh bien, c'est la Turquie, la mafia du raisin sec, juste devant les États-Unis. Voilà. Alors, une petite histoire du raisin sec, parce que quand même, j'ai essayé de chercher. Et pourquoi le raisin sec? Donc, j'ai trouvé plein de sources de merde. Vraiment rien de bien fiable, si ce n'est tout en bas de la page Google, une historienne de l'alimentation apparemment qui a fait un blog qui a l'air un peu douteux, mais bon, pourquoi pas. Donc je vous cite ce qu'elle dit sur l'histoire du raisin sec. Elle dit: le raisin fut consommé par les hommes dès les premières civilisations dans les régions du Proche-Orient, où il est né dans un triangle compris entre le Caucase, l'Arménie et l'Iran. Là, je fais une petite ellipse parce que ça blablate sur où il y a les cultures dans le monde et que bon, je suis pas maso à ce point. Donc le raisin était consommé frais, sec et sous forme de boisson. Les grains de raisin, secs le plus souvent, se glissaient dans les galettes sucrées et, frais, servaient en cuisine pour modifier les saveurs et les propriétés des aliments, en particulier dans la cuisine arabe, puis dans la cuisine européenne, car après l'interdiction religieuse du vin au Proche-Orient, la culture du raisin de table et du raisin sec se développa au dépit de celle du vin, et les Arabes exportèrent ces produits chez les Européens du Nord. Voilà, c'était à peu près la seule chose intéressante de ce podcast. J'ai cherché quelques petites anecdotes, hein, j'aime bien. Donc j'ai trouvé qu'on trouvait pas mal de raisins dans les tombes de Pharaon.
Ah d'accord.
Alors, est-ce qu'il était sec? Je sais pas. Mais apparemment, il y aurait la trace d'une transaction de Ramsès III qui aurait offert, alors je sais pas pourquoi et je sais pas à qui, mais il aurait offert 11 872 jarres de raisins séchés au soleil.
Trop bien.
Il a offert ça à un de ses pires ennemis, en fait.
Je pense qu'il a offert ça à son pire ennemi. Mais soit dit en passant, les raisins secs sont à forte valeur énergétique. Et donc, en fait, j'ai lu aussi qu'on attribuait au général Hannibal, donc le Carthaginois, ouais, la victoire des... Enfin, en gros, il a vaincu les Romains, et apparemment grâce aux raisins secs, parce que c'est avec ça qu'il aurait nourri ben son
ouais
armée.
Ah d'accord. Et après, il a perdu parce qu'il en avait plus, du coup.
Exactement, plus de raisins secs, plus de... Voilà.
Plus d'armée.
Voilà. Logique. Plus armée, plus rien. Décès par la faim. Christophe Colomb aussi, il aurait emporté dans son expédition des raisins secs dans le bateau. Voilà. Après, c'est pratique, hein, les fruits secs dans les bateaux, tout ça, je dis pas. Et puis après, j'aime bien, moi tout ce qui est un peu mystique, magique et tout. Et donc, j'ai un livre qui s'appelle « La cuisine Wiccan » de Scott Cunningham, dont je vous parlerai peut-être un jour. C'est un monsieur qui écrit beaucoup sur... qui a beaucoup écrit dans les années 80, en tout cas, sur la Wicca, les magies un peu naturelles et tout ça.
Nice.
Et du coup, je me suis dit « Yes, je vais aller voir à quoi est associé le raisin et comment on peut l'utiliser en magie. » Alors, j'ai vu que le raisin pouvait être utilisé pour les rêves, la fertilité et l'argent.
Oh.
Et il y avait une petite note sur les raisins secs qui disait « Parce qu'ils ont été séchés au soleil, les raisins secs sont gouvernés par le soleil et par l'élément du feu. On les mange pour développer l'esprit conscient.
Oh. »
Donc si vous avez la tête dans le cul, mangez des raisins secs, en gros.
Classe.
Voilà. Classe. D'accord.
Donc en France, nous, ce qu'on fait, bah, c'est du vin, hein, ça tout le monde le sait. Et donc c'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on commence à entrevoir d'autres utilisations que le vin pour le raisin. Et apparemment, ce serait François Ier qui l'aurait fait entrer à Fontainebleau, il aurait fait entrer le raisin de table, en gros, en tant que dessert du roi. Et c'est à partir de là qu'on aurait commencé à bouffer du raisin. Et alors j'ai pas trouvé de source là-dessus non plus. Par contre, il semblerait qu'au XVIIe siècle, il y ait des traités de médecine qui mentionne que effectivement le raisin est consommé en dessert à la fin du repas, mais c'est vraiment à peu près la seule source, hein, que j'ai pu trouver. Et puis vous avez tous déjà entendu l'expression mi figue mi raisin,
ouais,
qui signifie à peu près mêlé de bon et de mauvais. Bah, d'ailleurs on peut l'appliquer au raisin sec aussi, hein. Le raisin c'est bon, mais sec ça devient beaucoup moins bon. Et du coup, bon, ça, cette expression elle viendrait du fait que seuls les fruits secs peuvent être consommés durant le carême. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui font encore carême, je sais pas à partir de quand ça a été fait, etc., etc. Mais bon, alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'infligent l'ingestion de raisins secs alors que c'est délicieux, frais ou fermenté? Eh bien, bonne question. Alors déjà, il faut savoir qu'un raisin, c'est 4 fois plus calorique qu'un raisin frais, un raisin sec. Il y a 4 fois plus d'oligo-éléments et de minéraux dedans, et ça a une haute concentration en sucre. Vous m'écoutez bien.
Oui, on est concentrés.
Sachez également que le raisin sec est une excellente source d'antioxydants phénoliques, hein, tout comme le jus de raisin et le vin. Donc clairement, mangez plutôt du vin, hein, voilà, parce que le raisin sec, voilà. D'ailleurs, on ne connaît pas très bien la composition phénolique du raisin sec, on connaît beaucoup mieux celle du raisin frais et du vin, parce que personne n'a envie de l'étudier, celle du raisin sec. Et on se demande pourquoi. Et c'est également excellent pour soigner l'arthrite, le raisin sec. Et donc c'est sûrement pour ça que la glace rhum raisin est le best-seller chez les boomers.
Rudement violent.
Et d'ailleurs, sachez aussi que les raisins qui ont été séchés au soleil ont une haute teneur en fructane. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, je vous aide un petit peu, les fructanes sont des homopolymères de fructose liés aux résidus fructosyl ou glucosyl d'une molécule de saccharose. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois arrivés dans le côlon, les raisins secs y fermentent. Bref, t'aurais juste pu picoler du vin, encore une fois. Et en gros, c'est plutôt sympa avec ton côlon, ça prend soin de ton côlon. Bref, voilà, si vous voulez avoir un gentil côlon, mangez des raisins secs.
C'est bon à savoir.
C'est très bon à savoir.
Et donc, on n'a toujours pas parlé du niveau du gustatif, parce que c'est vrai que bon, cet aliment, malheureusement, il est très utilisé. Hein. Est-ce que vous connaissez des plats, par exemple, où on trouve des raisins secs?
Le muesli. Je passe pas vraiment un plat, mais...
Oui, c'est vrai, le muesli. Dans le muesli, le fameux pain au raisin, hein, que tout le monde déteste,
putain,
bien
sûr.
Putain,
le pain au raisin. Je bénis c'est la personne qui a un jour remplacé les raisins du pain au raisin par des chocolats.
c'est sérieux, vous n'avez pas le pain au raisin à cause des raisins secs? Vous êtes sérieux, là?
Ah bah, bien sûr.
Le pain au raisin, c'est dégueulasse, j'en prends jamais. Tu sais, quand les gens, ils ramènent des viennoiseries... Le pain au raisin, il est de côté. Bon, je n'y touche pas.
Non, mais personne ne touche au pain au raisin. Enfin, c'est apparemment Alex. Alex, tu es team raisin sec.
Alors, ouais, écoute, déjà, qui est team raisin sec ici, du coup?
Moi, je suis team raisin sec, perso. Mais je vais faire
Alors, moi, je suis team raisin sec, mais je ne savais pas que c'était un clash international, le raisin sec. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Alors, le pain au raisin, je savais, mais le raisin sec en lui-même, non.
Mais c'est bien pour ça que le pain au raisin n'est pas admis dans le petit panier de viennoiserie que les gens peuvent te ramener le matin.
J'avoue que je n'aime pas le pain au raisin, même si j'aime les raisins secs, mais bon, ça, je ne sais pas ça. je n'ai pas d'explication.
Le mec, il m'emmène un pain au raisin, mais je m'incline à ses pieds, moi.
C'est vrai. Ouais, moi, je pense que je lui casse la tête. Je pense que je le massacre direct. Bon, il y en a partout, hein. De toute façon, il y en a dans le taboulé, il y en a dans le couscous. Voilà, il y en a vraiment. Ah, en vrai, voilà. Bon.
Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces petits raisins?
Ils sont secs.
Mais ils sont secs. De manière très sérieuse, je trouve que je pense que c'est valable pour tous les fruits séchés, c'est que quand t'as le vrai fruit qui est pas sec, il y a du jus, il y a de la saveur, il y a du goût, il y a quelque chose, et je trouve qu'à partir du moment où il est séché, où il est mis en pot, ça devient tout de suite... Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il était avant d'être ça. c'est pareil pour les...
La grosse
est-ce que nostalgie. Est-ce que vous mangez des... vous aimez les cerises ou pas?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous mangez des cerises en pot?
Hors de question.
Non.
Voilà. Oui. Et les cerises en pot, pour moi, ça, c'est encore pire que le raisin sec. Pour moi, c'est le diable, tu vois. C'est parce que ça n'a aucun sens. La cerise, c'est un fruit qui est fait, tu le cueilles de l'arbre, tu le croques, tu le manges, tu jettes le noyau. C'est bon, voilà, c'est diurétique, tu vas pisser toute la journée, mais c'est bien. La cerise en pot, dans les vieilles pots de conserve de merde, là, que tu ressors à Noël, ça n'a pas de goût. C'est dégueulasse, il y a toujours les noyaux à l'intérieur, ça n'a pas de sens.
Je suis d'accord, Marc.
Mais on revient sur l'histoire des adaptations, c'est pareil, il faut pas partir du principe que tu manges une vraie cerise qui vient de l'arbre lui-même que tu viens de cueillir à l'instant, c'est juste une réadaptation gustative.
Non, mais en plus, c'est bien, ça me permet de faire ma transition pour finir de vous parler du raisin sec. C'est pour vous dire à quel point c'est con, hein, Marc, tu tombes pile poil dans le truc. Le site Potager City recommande carrément, et je cite, de les faire tremper dans des liquides, thé, jus ou tout simplement de l'eau pour les rendre plus moelleux. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils prennent un raisin sec et ils les hydratent pour refaire du vrai raisin. Donc en fait, c'est un petit peu comme les anti-vax qui te disent qu'au lieu de faire un vaccin, on pourrait inoculer une petite partie du virus pour pouvoir être immunisé. Les amateurs de raisin sec, ils perdent complètement le sens commun. Et la boucle est bouclée, voilà, il revient... La légende dit qu'ils peuvent revenir aux vrais raisins si on les laisse faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le raisin sec.
On sent qu'il y avait besoin d'évacuer une certaine haine aussi à ce niveau-là.
Oui, c'est d'ailleurs spéciale dédicace à tous les copains avec qui j'étais un soir, je crois que c'était il y a un an ou deux, et avec qui on a commencé à parler de raisins secs, et ce qui a créé un énorme débat entre quelqu'un qui aimait beaucoup les raisins secs et une amie à moi qui est caviste. Coucou Marielle, et qui, elle, était en train de dire que le seul moyen de faire du bon raisin transformé, c'était de le faire dans du vin, ce qui est normal,
logique,
tout à fait légitime, voilà, et que le raisin sec, c'était de la merde. Raisin sec, c'est vrai que dans le nom, tu l'entends sec. Déjà, il est sec. Ouais.
À la rigueur, mélanger avec d'autres trucs, je veux bien, mais alors tout seul, je comprends pas le principe, c'est vraiment...
Voilà, c'est vrai, moi mélanger avec d'autres trucs, je peux le manger en vrai.
C'est mélanger avec d'autres trucs.
Ouais, mais là, je sais pas.
Mais ça s'appelle un pain au raisin.
Voilà, c'est l'ingrédient principal, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la rigueur...
C'est tellement pas l'ingrédient principal.
À la rigueur, non mais c'est dedans, quoi, il y en a partout. À la rigueur, tu vois, si tu te fais un, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un plat de, je sais pas, un dal, mettons, je pense à un dal en premier, parce que c'est ce que je vais manger ce soir, et que la personne a mis 2-3 grains enfin raisin sec au milieu, bah je suis là à faire ok d'accord, il y a raisin sec, bah ça a pas de goût de toute façon, donc c'est pas bien grave, ça change pas la teneur principale du repas, alors qu'un pain au raisin, ça pourrait tellement être du chocolat ou autre chose, pourquoi s'infliger ça quoi?
Oui, mais en
tu
fait,
veux du
ça
chocolat,
pourrait
tu prends un pain au chocolat.
Non, mais il y a des trucs qui sont géniaux. Vous les connaissez, ils appellent ça des escargots au chocolat. Mais c'est le principe, c'est à retirer
oui,
les raisins. T'as mis des pépites de chocolat. La personne qui a inventé ça est un génie, clairement. Alors que la personne qui a inventé le pain au raisin est malfaisant.
Malfaisant. T'imagines, moi c'est ma grande déception. C'est les premières fois où on a ramené des pains au raisin et que j'étais persuadée que c'était des pépites de chocolat et j'ai croqué dedans. Et j'étais mais deg. C'est, je pense que c'est comme ça que vient la haine des raisins secs aux gens, tu vois. Tous ces voilà, copains qui ont, vous, si vous avez vous aussi croqué dans des pains au raisin en pensant que c'était du chocolat, appelez ce numéro.
Mais mettez dans les commentaires si vous êtes plutôt team raisin sec ou team pas raisin sec.
Anti-raisin
sec.
Voilà, maintenant vous avez tout sur le raisin sec.
Mais c'était vachement intéressant en vrai comme chronique, hein. Franchement, moi je. Il y a eu du débat, c'est incroyable.
Ouais, c'était surtout très inattendu.
C'était vraiment très inattendu. Je m'attendais à tout sauf à ça, je pensais.
Enfin, mais mon effet de surprise.
T'as bien
a
fait
fonctionné.
De pas me dire ce que ça allait être parce que j'aurais pas pu avoir l'élément de surprise sinon.
Ça aurait tout gâché.
Ouais, oui, complètement. Merci à vous trois, c'était chouette.
Avec plaisir.
Bah oui, carrément.
Très cool.
C'est une émission un peu plus courte que d'habitude, mais on a bien ri et c'était bien funky, je trouve. Les raisins secs, c'est quand même. Ouais,
j'ai senti qu'il y a eu beaucoup de débats salvateurs, c'est important pour chacun.
c'est cathartique comme émission.
Ouais,
en fait,
c'est
hein,
ça,
faut vraiment
oui, il y en avait
pour,
besoin. Ouais, on a commencé la semaine, on se guide de tout ça.
C'est bien, il faut.
C'est exactement ça. Bon. Bon bah écoutez, bah c'est fantastique, on va mettre fin à tout ça. Merci à vous trois d'avoir participé, comme j'ai dit. Merci également à nos très chers auditeurs. Si vous êtes au rendez-vous, comme j'ai dit, mettez dans les commentaires si vous aimez ou non les raisins secs ou alors ces putains de cerises en pot. voilà, vous désabonnez pas non plus si vous êtes plutôt pro raisin sec, parce que vous voyez, il y en a deux personnes qui aiment les raisins secs ici, donc voilà.
Oui.
Et sur ce, oui, team raisin sec.
C'est la vie, les raisins secs.
Et sur ce, bah écoutez, bah il est temps de nous dire au revoir. Bah merci encore une fois et puis à la prochaine. Ciao.
Merci à toi.
Merci.
Salut.
Boum, hop, c'est bon, vous voyez tous votre petite barre qui marche?
Yes. Ouais.
Est-ce que si je parle, vous voyez la barre qui bouge aussi en même temps ou pas?
Non.
Non, et bah c'est que c'est bon.
Attends,
alors c'est parfait.
Marc, s'il te plaît.
Attends.
Je parle, je suis là, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, et vous, pourquoi? Comment ça? Ouais, blablabla, j'ai
ouais,
pas
ça,
à faire
ça, ça marche un peu, ça le fait un peu, j'ai l'impression.
Ça le fait un peu, alors ouais. Essaye de baisser ouais. Un peu le micro.
Et
jusqu'à ce que ça le fasse plus.
Voilà, continue de parler.
Je vais continuer à parler. Voilà, autour de moi, il y a un compas, il y a aussi une clé USB Sony, il y a aussi un coupon de pizza pour Salavas. Mais le truc, c'est que comme j'y habite plus, bah, il me sert pas vraiment à grand chose. Et c'est con parce qu'il me restait 4 pizzas en fait à prendre. Donc
c'est
là, des fois, j'hésite à me dire peut-être que j'y retournerai pour pouvoir aller en prendre. Parce qu'elles sont très bonnes, hein, c'est les meilleures pizzas de l'Ardèche.
C'est bon,
vraiment, si vous avez le... c'est bon, ok.
Ça doit aller, je pense. Ça a l'air de pas trop bouger.